Ben-Hur, chapitre 31, la tour Antonia, cellule numéro 6. 30 jours s'étaient écoulés depuis la nuit où Ben-Hur quittait Antioche pour suivre le cheikh Hilderim au désert. Et un grand événement avait eu lieu en Judée. Gratien venait d'être remplacé par Ponce Pilate. Peu de jours suffirent pour convaincre les Juifs que ce changement ne constituait point pour eux un avantage. La cohorte envoyée pour relever la garnison de la tour Antonia fit son entrée dans la ville de nuit. Le matin suivant, les murailles de la vieille citadelle s'offrirent aux yeux du peuple, ornées d'insignes militaires, aigles et globes auxquels se trouvaient mêlés des bustes de l'empereur. Une multitude de Juifs, exaspérés, montèrent à Césarée où Pilate se trouvait encore pour le supplier de faire enlever ces images détestées. 5 jours et 5 nuits durant, ils assiégèrent les portes de son palais. Enfin, il annonça qu'il leur donnerait audience dans le cirque. Lorsqu'ils y furent assemblés, il y fit entourer par ses soldats. Au lieu de le résister, ils lui offrirent leur vie, ce que voyant, il céda à leurs sollicitations et fit reporter les bustes et les insignes à Césarée, où Gratien avait gardé ses abominations pendant les 11 années de son administration. Cependant, les pires d'entre les hommes aiment parfois à se signaler par quelques bonnes actions. Pilate donna l'ordre de faire une inspection générale des prisons de la Judée et de lui envoyer les noms de toutes les personnes qu'on y trouverait avec la mention des crimes qui leur étaient imputés. Nul doute que son motif ne fut la crainte d'assumer la responsabilité des injustices de son prédécesseur, mais le peuple ne voulut y voir qu'une marque de bonté et pour un moment reprit courage. Cette inspection donna lieu à des découvertes étonnantes. Non seulement des centaines de personnes sur lesquelles ne pesait aucune accusation furent relâchées, et d'autres que l'on croyait mortes depuis longtemps reparurent, mais on ouvrit encore des cachots dont le peuple et les autorités elles-mêmes ignoraient l'existence. L'une de ces cellules oubliées se trouva, chose à peine croyable, à Jérusalem même. L'ordre du nouveau procurateur avait promptement été mis à exécution par le tribun chargé du commandement de la tour Antonia, et le rapport concernant les prisonniers allait être envoyé à Pilate, qui séjournait au palais du mont de Sion. Le bureau du tribun était une pièce spacieuse et bien aérée, meublée avec un luxe assorti à la dignité du fonctionnaire qui occupait ce poste important. C'était la 7e heure du jour, et l'officier regardait autour de lui de l'air d'un homme aussi ennuyé qu'impatient. Il lui tardait en effet d'expédier son rapport afin de pouvoir aller se promener sur le toit de la colonnade du temple, d'où il s'amuserait à regarder les Juifs allant et venant dans les parvis. Ses subordonnés paraissaient partager son impatience. Enfin, un homme parut sur le seuil de la porte. Il faisait sonner un trousseau de grosses clés, ce qui attira immédiatement l'attention de son chef. « Ah, Jésus, viens ici !» lui cria celui-ci. Tous ceux qui étaient présents dans la salle regardaient le nouveau venu, tandis qu'il s'approchait de la table derrière laquelle le tribun était assis, et, remarquant la consternation peinte sur son visage, ils firent silence, afin de ne rien perdre de ce qu'il avait à dire. « Ô tribun, commença-t-il en s'inclinant, j'ose à peine te raconter ce que je viens de découvrir. Une nouvelle méprise, Jésus ? Je ne craindrais rien si je pouvais me persuader qu'il s'agit réellement d'une méprise. C'est donc un crime, ou ce qui serait pire, une infraction au devoir. On peut rire de César ou maudire les dieux et vivre, mais s'il s'agissait d'une offense envers les aigles romaines, ah, tu sais ce que cela signifierait. Parle, Jésus. Il y a maintenant 8 ans que Valère Gratien me choisit comme geôlier des prisonniers enfermés dans la citadelle, commença cet homme d'un ton déterminé. Je me souviens du jour où j'entrais en fonction. Il y avait la veille une bagarre dans les rues. Nous avions tué plusieurs Juifs et de notre côté nous avions subi des pertes. Toute cette affaire venait, disait-on, de ce que quelqu'un avait tenté d'assassiner Gratien en lui jetant du haut d'une terrasse une brique sur la tête. Je le trouvais assis à la place que tu occupes en s'attestant, ô tribun, le front entouré de bandages. Il m'annonça qu'il me nommait gardien des prisons et me donna ses clés qui portent des numéros correspondant à ceux des portes des cellules, en me recommandant de ne jamais m'en séparer. Il prit ensuite un rouleau de parchemin déposé devant lui sur la table et l'ouvrit en m'ordonnant de m'approcher davantage. « Voici, dit-il, les plans des cellules. » Il y avait 3 feuilles de parchemin. « Cette feuille-ci, continua-t-il, concerne l'étage supérieur, celle-là l'étage du milieu. Cette dernière enfin t'indiquera l'aménagement du rez-de-chaussée. Je les confie à tes soins. » Il me les tendit et continua. « Maintenant que tu as entre les mains les clés et les plans, va immédiatement prendre connaissance de toute cette partie de la tour. Visite chaque cellule et assure-toi de l'état dans lequel elle se trouve. Tu prendras toutes les mesures que tu jugeras nécessaires à la sécurité des prisonniers, car tu auras à répondre de tes actes qu'à moi seul. » Je le saluai et j'allais me retirer quand il me rappela. « Ah !» me dit-il, « j'oubliais quelque chose. Rends-moi le plan du rez-de-chaussée. » Quand il l'eut déployé devant moi, il reprit en posant le doigt sur la cellule qui portait le numéro 5. « Il y a dans cette cellule 3 prisonniers, des hommes qui sont en possession d'un secret d'État et qui portent la peine de leur curiosité. La curiosité, en pareil cas, il me regardait sévèrement tout en parlant, est pire qu'un crime. Aussi, pour la leur faire expier, leur a-t-on crevé les yeux et coupé la langue. Ils doivent recevoir leur nourriture par un guichet pratiqué dans la muraille. M'as-tu compris, Jésus ? Je fis signe que oui. « C'est bien, continua-t-il. Rappelle-toi que la porte de leur cellule ne doit être ouverte sous aucun prétexte. Sous aucun prétexte, tu m'entends ? Personne ne doit en sortir ni y entrer, pas même toi. Mais s'ils viennent à mourir, lui dis-je, s'ils viennent à mourir, cette cellule leur servira de tombeau. Ils ont été mis là afin d'y périr et que l'on n'entende plus parler d'eux. Cette cellule est infectée par la lèpre, comprends-tu ? Sur ces dernières paroles, il me congédia. Jésus s'arrêta et tira des plis de ses vêtements 3 rouleaux de parchemin. Il en choisit un qu'il déploya devant le tribun en disant « Voilà le plan du rez-de-chaussée tel que je l'ai reçu de Gratien. » Toute la compagnie se pencha pour regarder le plan, qui indiquait 5 cellules ouvrant sur un corridor. « Je voudrais t'adresser une question au tribun, » dit Jésus au bout d'un moment. Le tribun fit un geste d'assentiment et le geôlier reprit « N'étais-je pas en droit de croire ce plan exact ?»«
Comment aurais-tu pu supposer autre chose ?»«
Et cependant, tribun, il est faux. » Le chef fit une exclamation de surprise. « Il est faux, » répéta le geôlier. « Il indique que seulement 5 cellules, tandis qu'il y a en réalité 6 cellules, voyez plus tôt. » Et prenant une de ses tablettes, il y traça à la hâte quelques lignes qu'il plaça sous les yeux du tribun en disant « Tu vois qu'il se trouve une 6e cellule derrière les 5 qui ouvrent sur le passage. Je le vois en effet, dit le tribun après avoir examiné le dessin. Tu as eu raison de m'en avertir. Je ferai corriger ce plan, ou plutôt j'en ferai faire un nouveau que je te remettrai. Viens le chercher demain. Le tribun, croyant la chose terminée, se levait, mais Jésus s'écria : Écoute-moi jusqu'au bout, ô tribun. Je t'entendrai demain, Jésus. Ce que j'ai à te dire ne souffre aucun délai. Le tribun se rassit et le geôlier reprit humblement. Je ne te retiendrai pas longtemps, mais il importe que tu saches ce que j'ai découvert. J'ai visité toutes les cellules ainsi qu'on me l'avait ordonné, en commençant par celle de l'étage supérieur. Jusqu'alors, j'avais respecté les ordres du gouverneur concernant la cellule numéro 5 du rez-de-chaussée et j'ai fait passer par le guichet pratiqué dans la muraille de la nourriture et de l'eau pour 3 hommes. Hier, je me suis disposé à ouvrir enfin cette cellule, curieux que j'étais de voir les misérables qui, contre toute attente, avaient vécu si longtemps. La clé a refusé de tourner dans la serrure. J'ai poussé un peu la porte, aussitôt elle a cédé sous ma main et elle est tombée en avant. Je suis entré dans la cellule, où je n'ai trouvé qu'un seul homme, vieux, aveugle, muet et nu. Ses cheveux retombaient en épais matelas jusqu'à la hauteur de ses reins. Sa peau ressemblait au parchemin que voici. Il étendait ses mains devant lui. Ses ongles étaient longs et crochus comme les griffes d'un oiseau de proie. Je lui ai demandé où étaient ses compagnons. Il m'a fait un signe de dénégation. J'ai inspecté toute la cellule. Le sol et les murs en sont parfaitement secs. Si 3 hommes y ont jamais été enfermés, que 2 d'entre eux y soient morts, j'aurais dû immanquablement retrouver au moins leurs os. Tu penses donc ? Je pense au tribun qu'il y a eu pendant ces 8 années un seul prisonnier dans cette cellule. Le chef regarda fixement le geôlier. « Prends garde, lui dit-il. Ce que tu affirmes revient à prétendre que Gratien a menti. »
« Il s'est peut-être trompé, murmura Jésus.
« Non, non, il disait vrai, s'écria le tribun avec chaleur. « Ne conviens-tu pas toi-même que tu as fourni de la nourriture et de l'eau en quantité suffisante pour 3 hommes ?»
Mais Jésus ne paraissait point décontenancé.
« Tu ne sais pas encore tout, tribun, reprit-il. « Quand je serai au bout de mon récit, tu penseras comme moi. J'ai fait mettre cet homme dans un bain. Puis, lorsqu'il a été rasé et vêtu convenablement, je l'ai conduit à la porte de la tour en lui disant qu'il était libre d'aller où il voudrait. Quant à ce qui adviendrait de lui, je m'en lavais les mains. Ce matin, il est revenu à la porte et on me l'a ramené. Il m'a fait comprendre par ses signes qu'il désirait retourner dans sa cellule et j'ai ordonné de l'y conduire. Mais il s'est jeté à mes genoux, il a embrassé mes pieds. Évidemment, il insistait pour que j'allasse avec lui et c'est ce que j'ai fait. Le mystère qui enveloppait l'histoire de ces 3 hommes me préoccupait et je désirais l'éclaircir. Je suis heureux maintenant d'avoir cédé à ces muettes instances. Il régnait dans toute la salle un silence profond qu'interrompait seule la voix du geôlier. Lorsque nous fûmes entrés dans la cellule, continua-t-il, le prisonnier m'a pris la main et m'a conduit devant une ouverture, semblable à celle qui se trouvait dans la muraille opposée et par laquelle j'avais coutume de lui passer sa nourriture. Bien qu'elle soit assez large pour que ton casque pût y passer, je ne l'avais pas remarqué hier en faisant ma revue. Il a placé son visage devant ce trou et, sans lâcher ma main, a poussé un cri semblable à celui d'une bête. Un son très affable lui a répondu. Très étonné, je l'ai tiré de côté et j'ai crié « Oh, ici !» Au premier abord, je n'ai pas reçu de réponse. J'ai crié encore et j'ai entendu ces paroles « Béni sois-tu, ô Éternel !» Juge de mon étonnement, ô tribun, la voix qui parlait était celle d'une femme. « Qui es-tu » ai-je aussitôt demandé. « Une femme d'Israël, ensevelie ici avec ma fille. Venez promptement à notre secours, ou nous mourrons. » Je leur ai dit de prendre courage, et je suis venu en toute hâte prendre tes ordres. Le tribun se leva vivement. « Tu avais raison, Jésus !» dit-il. « Je le vois maintenant. Le plan et l'histoire des 3 hommes n'étaient que mensonges. Il y a eu de meilleurs Romains que Gratien. »« Ah certes, il y en a eu !» s'écria le geôlier. J'ai compris, d'après les gestes du prisonnier, qu'il a régulièrement fait passer à ces 2 femmes une partie de sa nourriture et de l'eau qu'il recevait. « C'est certain !» répliqua le tribun. Puis, voyant l'intérêt peint sur le visage de ses amis, il ajouta dans la pensée que des témoins pourraient ne pas lui être inutiles, « Allons tous ensemble délivrer ces femmes. »« Il nous faudra percer la muraille, » dit Jésus, qui paraissait enchanté de la décision du tribun. « J'ai bien trouvé la place où il y avait autrefois une porte, mais elle a été solidement murée avec des pierres et du mortier. » Au moment de sortir, le tribun se retourna encore pour dire à un de ses clercs, « Envoie des maçons après moi et qu'ils apportent leurs outils avec eux. Hâte-toi, mais garde le rapport. Il faudra que je le fasse corriger avant de l'envoyer. »